Le journal vous est présenté par Alexis Morel. Bonjour Alexis.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
À la une nuit dorée pour les Bleus à Tokyo. L'aviron français décroche la médaille d'or, la troisième pour le camp tricolore. Nous serons en direct du Japon. Les autres titres, Alexis.
Un Français sur deux complètement vacciné et vous l'entendrez, même parmi les réticents, certains se laissent finalement convaincre. En Polynésie, Emmanuel Macron attendu ce matin sur les conséquences des essais nucléaires. Il s'exprime en ce moment même. Le nouveau président du Pérou, officiellement investi aujourd'hui, porte-voix des peuples indigènes, il va devoir convaincre l'élite péruvienne. Et puis la mort de Jean-François Stévenin, on l'a appris cette nuit, acteur, second rôle reconnu, mais réalisateur aussi.
Les invités de la matinale de France Inter, l'irrésistible Clarisse Agbenienouf, médaille d'or. Au JO de Tokyo, la judokate n'a rien lâché hier, 5 ans qu'elle s'y préparait, mais elle espère désormais pouvoir respirer un peu, confidence tout à l'heure, à 7h50. Et puis dans le grand entretien, le peintre Gérard Garouste, l'un des artistes français les plus marquants depuis des années, il met son art et la culture au service des enfants en difficulté pour leur permettre de s'épanouir, d'apprendre à se construire. Son association La Source fête ses 30 ans cette année. 01 45 24 7000 pour vos témoignages. Le standard est d'ores et déjà ouvert. Rendez-vous à 8h20.
France Inter.
Une médaille d'or pour le petit-déj. Voilà ce que nous offre ce matin le camp tricolore aux Jeux Olympiques. Troisième titre français donc après Clarisse Agbenienouf et Romain Canon. Et on le doit, celui-là, à l'aviron. Bonjour Jérôme Cadet.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
En direct de Tokyo pour France Inter. Victoire donc cette nuit de Mathieu Androdias et Hugo Boucheron en deux de couple.
Oui, deux rameurs par embarcation sur un bassin de 2000 mètres. C'est le 2 de couple. Mathieu Androdias et Hugo Boucheron avaient échoué à Rio. Ils ont réussi cette nuit d'un souffle devant les Néerlandais. Leur pire course du week-end, dit Mathieu Androdias.
Les Hollandais sont revenus à notre hauteur, quoi. Et puis là, on balance, c'était pas beau, hein, mais on a balancé 10 patates de l'espace et ça repasse devant. À la fin, on sait même pas si on est devant, en fait. C'est une étoile qu'on a placée au loin comme ça et on voulait y croire. Mais faut la foi. C'est ce qui nous a fait lever tous les matins, quoi, pour aller au charbon.
Mathieu Androdias au micro de Xavier Monferrand, car Hugo Boucheron, que vous avez peut-être entendu tousser derrière, était tellement essoufflé qu'il n'a pas pu répondre aux questions des journalistes. Pendant de longues minutes, il parle de charbon, le noir du charbon, pour décrocher l'or. C'est une première pour le 2 de couple français depuis Athènes en 2004. La nuit a été plus sombre pour les judokas. Axel Clerget, éliminé dès les huitièmes de finale en moins de 90 kilos. Margot Pino, dès les huitièmes également en moins de 70 kilos. Maxime Grousset, à la piscine olympique, le nageur néo-calédonien s'est qualifié, lui, pour la finale du 100 mètres nage libre. Ce sera demain matin. Il sera opposé au monstre américain Caleb Dressel. Et puis peut-être une nouvelle médaille pour les Français. Dans 3h à 10h, demi-finale du basket 3 contre 3. Les Françaises face aux Américaines qui les ont battues deux fois ces dernières semaines.
Merci Jérôme Cadet en direct de Tokyo. Vous avez le programme. On va suivre aussi le cyclisme ce matin contre la montre avec le Français Rémi Cavagna. Et puis au village olympique, la détresse de Simon Biles, c'est toujours au cœur des discussions ce matin. La superstar américaine de la gymnastique qui a abandonné hier en plein concours général par équipe, évoquant des démons dans sa tête, se pose maintenant la question de sa participation au concours individuel. C'est demain, elle qui visait initialement 6 titres olympiques.
Près de 27 000 cas hier, la flambée des contaminations Covid se poursuit en France.
Alors que les courbes commencent nettement à redescendre chez plusieurs de nos voisins, le Royaume-Uni, l'Espagne. Faut-il y voir déjà un effet de la vaccination? En tout cas, ces pays sont un peu en avance sur l'Hexagone. Nous avons passé hier le cap des 50% de Français complètement vaccinés. Et bon gré mal gré, même parmi les réticents ou ceux qui hésitaient, certains se résignent finalement à recevoir la piqûre. Jules Brelas, vous l'avez constaté à Poitiers.
Vaccinés presque malgré eux, comme Marion, une jeune maman de 25 ans qui vient de recevoir sa première dose à Poitiers.
À contre-cœur, je voulais pas le faire. On n'a pas assez de recul sur le vaccin, du coup je voulais pas le faire maintenant, mais ils nous laissent plus le choix, donc je le fais. Pour les enfants, je pourrais les sortir, ils pourront passer des bonnes vacances, au mois d'août on doit partir.
À contre-cœur donc pour Marion, idem pour Fabien qui travaille dans l'industrie, fraîchement vacciné lui aussi.
Pas par conviction, par obligation bien sûr, mais bon, si ça peut aider, pourquoi pas. Je suis pas forcément pour les vaccins parce que j'ai eu des expériences négatives avec des vaccins qui m'ont fait très mal, donc c'est pour ça, un peu réticent. Pas assez de recul je pense, mais voilà, bon, si ça peut faire avancer le Schmilblick, Hercule et le Covid, pourquoi pas, faisons confiance aux professionnels.
Plutôt que de croire aux fake news, comme le dit Céline, une éditrice qui a décidé de se faire vacciner.
J'étais hésitante. Je pense que les réseaux sociaux font bon coup de mal. Il y a une violence qui se défoule. Et bon, voilà, je l'ai fait. Faut le faire. Pour passer à autre chose, voilà, moi je suis vaccinée, je vais pas forcément le crier sur les toits parce qu'il y a les anti-vaccins qui vont me tomber dessus, mais c'est fait. J'ai hâte d'avoir la seconde injection maintenant et passer à autre chose. Ouais.
Au centre de vaccination de Poitiers, tous les créneaux sont désormais réservés jusqu'à la troisième semaine d'août.
Jules Brelaz, France Bleu Poitou pour France Inter. Le vaccin et le masque dont le port obligatoire en extérieur s'étend en France. 24 départements sont désormais concernés sur toute ou partie de leur territoire et notamment quasiment maintenant tout le littoral atlantique de la Vendée à la frontière espagnole. C'était le discours le plus attendu d'Emmanuel Macron en Polynésie française et c'est donc au dernier jour de sa visite que le président a choisi de le prononcer. Il doit évoquer dans quelques minutes les conséquences des essais nucléaires réalisés là-bas des années 60 aux années 90. Le chef de l'État s'exprime en ce moment même, mais il a déjà promis il y a quelques heures la transparence sur ces essais nucléaires. C'était lors d'un échange informel avec des militants anti-nucléaires qui l'attendaient au bord de la route. Dernières heures polynésiennes donc pour le chef de l'État, qui va ensuite présider le Conseil des ministres de l'avion qui le ramène de Papété. C'est une première. L'Airbus présidentiel est équipé de liaisons haut débit censées permettre ces réunions à distance relativement fluides. Dernier Conseil des ministres donc avant la pause estivale pour le gouvernement.
Ces explications sont très attendues après les révélations sur l'affaire Pegasus.
Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz est à Paris aujourd'hui. Il doit rencontrer son homologue française Florence Parly à 18h. Pegasus, c'est ce logiciel espion qui comptait notamment Emmanuel Macron et des ministres français parmi ses cibles potentielles. France Inter vous le révélait la semaine dernière avec la cellule investigation de Radio France et le consortium de journalistes international. L'entreprise qui a conçu le logiciel est israélienne. Le sujet sera donc au menu des discussions ce soir, Frédéric Saïs.
La ministre des Armées, Florence Parly, compte bien demander des explications. Quelle connaissance avait le gouvernement israélien de l'utilisation de Pegasus par d'autres États et quels dispositifs sont mis en place pour prévenir le détournement de ce logiciel, logiciel qualifié de hautement intrusif par l'entourage de la ministre. Son homologue Benny Gantz a déjà assuré qu'il communiquerait les dernières informations dont il dispose. Après les révélations de la semaine dernière, le Maroc a concentré l'attention, même si Rabat dément l'utilisation de ce logiciel espion. Pour autant, les autorités françaises n'oublie pas que la vente de Pegasus à des pays tiers est soumise à l'autorisation du ministère israélien de la Défense. Jeudi dernier déjà, Emmanuel Macron avait appelé le Premier ministre de l'État hébreu, comme nous l'a confirmé l'Élysée. Le président français a fait part de sa préoccupation, selon des médias israéliens. La teneur de la conversation n'a pas été dévoilée par les autorités françaises, qui restent discrètes sur ce dossier.
Les précisions de Frédéric Saïs. Rachida Dati se défend et contre-attaque même ce matin dans les colonnes du Parisien. « On tente d'entraver mon engagement dans les échéances qui s'annoncent », affirme l'ancienne garde des Sceaux. Après sa mise en examen, notamment pour corruption passive et recel d'abus de pouvoir, au cœur du dossier, des honoraires reçus en tant que consultante pour l'alliance Renault-Nissan entre 2010 et 2012, alors qu'elle était en même temps députée européenne. L'actuelle maire du 7e arrondissement de Paris, pressentie pour être candidate à la primaire de la droite, s'en prend aussi ce matin à la justice, instrumentalisée, selon elle, pour un combat politique inavoué. Quand le braqueur arrive et repart en trottinette, c'était hier après-midi dans un quartier chic de Paris, bijouterie Chaumet, c'est près des Champs-Élysées. Il y en a pour au moins 2 millions d'euros de butin. Déroulement des faits avec Valentin Dunat.
Il est environ 17h dans cette rue parallèle aux Champs-Élysées quand un homme arrivé en trottinette rentre dans la boutique. Il est armé d'un pistolet automatique. Aucun coup de feu n'est tiré, pas de violence dans la bijouterie. Il se fait remettre des bijoux et des pierres précieuses. Il repart donc comme il est venu, en trottinette. L'enquête a été confiée à la brigade de répression du banditisme. Les salariés, eux, ont quitté les lieux près de 5 heures après les faits, sous bonne escorte. Ce joaillier français a déjà été braqué en 2009, mais dans l'établissement historique qui est situé place Vendôme, pour un butin à peu près similaire, près de 2 millions d'euros de pierres précieuses.
Valentin Dunat, accolade, sourire, échange d'amabilité, ce n'est vraiment pas anodin ce qu'il s'est passé hier soir en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara Ouattara a rencontré pour la première fois depuis 2010 son prédécesseur et ancien rival, Laurent Gbagbo. Tête à tête d'une demi-heure pour marquer un début de réconciliation, 10 ans donc après la violente crise post-électorale là-bas et l'arrestation de Gbagbo. Poursuivi puis acquitté par la justice internationale, il a finalement pu revenir à Abidjan le mois dernier grâce au feu vert d'Alassane Ouattara.
Lui aussi va devoir panser les plaies d'un pays divisé.
C'est aujourd'hui que Pedro Castillo devient officiellement président du Pérou. Cérémonie d'investiture sous haute surveillance après des semaines de contestation du résultat de l'élection par les partisans de son opposante, la fille de l'ex-président Fujimori. Castillo, 51 ans, de gauche, se veut le porte-parole des peuples indigènes et des régions rurales. Ce qu'une partie de l'élite péruvienne ne voit pas d'un très bon œil, Juliette Pierron.
Sur les réseaux sociaux, Pedro Castillo est l'objet de nombreuses critiques. Daniela, étudiante à Cusco, se souvient des caricatures de l'instituteur parlant le quechua, une langue indigène considérée comme inférieure, ou encore de l'usage du mot cholo, expression méprisante pour désigner un métis de l'arrière-pays. Ce n'est pas une personne qu'on considère dans l'imaginaire collectif comme un président. Ce n'est pas un homme blanc qui parle anglais, qui a un doctorat, des dizaines de diplômes avec un langage académique pompeux. Non, là c'est comment un cholo va nous gouverner.
Une question qui inquiète surtout les classes supérieures de Lima, la capitale, d'autant plus que Pedro Castillo incarne une gauche radicale qui fait peur aux élites, selon le sociologue péruvien David Sulmont.
Le Pérou a subi une insurgence du Sentier Lumineux, ce parti communiste extrêmement radical dans la violence politique des années 80, qui a provoqué un des conflits les plus meurtriers de l'histoire péruvienne, donc dans les hautes classes sociales. Il y a cette peur vers tout projet politique de gauche.
Le nouveau président devra donc être stratégique.
Tout dépend de sa capacité de pouvoir intégrer quelques personnes plus progressistes, disons, des élites de Lima, pour faire que l'État marche.
Pedro Castillo devrait dévoiler son gouvernement dans la journée.
Juliette Pierron avant cette investiture présidentielle au Pérou. Lui avait découvert les plateaux de tournage un peu par hasard lors d'un stage à Cuba. Heureux hasard qui lui a valu de tourner très vite avec les plus grands, Truffaut, Godard, puis de devenir un second rôle très prisé du cinéma français. Jean-François Stévenin est mort à 77 ans, on l'a appris cette nuit. Acteur donc dans Le Pacte des Loups, L'Homme du Train, mais aussi réalisateur de 3 films, dont Passe-Montagne. On le verra encore sur les écrans cet automne, puisqu'il a joué dans Illusion perdue de Xavier Giannoli, cette adaptation de Balzac qui sera présentée à la rentrée au Festival de Venise.
Merci Alexis Morel. On vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 9h. À suivre, le Zoom de France Inter.